Ce matin, j'ai retenu comme lecture pour ce culte, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça : « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et je vous invite à chanter dans Louange et prière, le petit fascicule relié en couverture bleue. Nous chanterons le cantique 269, le cri de mon âme, le cantique 269, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 269. Je vous invite à vous lever. Seigneur, ta parole est force dans la faiblesse, lumière dans la nuit, vérité dans le doute, et les vies dans la mort. Que ta parole aujourd'hui nous renouvelle, qu'elle nous garde, qu'elle nous éveille. Des enseignants, nous en avons tous eu, pour le meilleur et pour le pire. Quand j'étais lycéen, des professeurs dont je conserve d'ailleurs un excellent souvenir, m'ont par exemple appris que le théâtre classique obéissait à une règle dite des trois unités. L'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Alors dans le récit de Marc dont vous venez d'entendre la lecture, on retrouve bien sûr l'unité de temps. L'épisode se déroule le jour du sabbat. Il en va de même de l'unité de lieu. La scène se passe à Capharnaüm, dans la synagogue. En revanche, il y a un petit problème en ce qui concerne l'unité d'action, puisque Marc, en fait, entremêle deux récits, deux actions. L'un qui concerne l'enseignement de Jésus, et l'autre qui met en scène l'exorcisme d'un possédé. Jésus chasse un esprit impur. Et le lien entre ces deux éléments, entre ces deux actions, l'exorcisme et l'enseignement, ne s'impose pas à nous de manière évidente. Pourquoi ? En effet, associer la nouveauté de l'Évangile à l'archaïsme d'une pratique qui inscrit Jésus dans une tradition ancienne et peu originale. Elle le met au nombre des guérisseurs et des thaumaturges au pouvoir plus ou moins merveilleux, tels que les religions en comptent souvent. Alors bien sûr, la tentation serait d'interpréter l'exorcisme comme la confirmation de l'enseignement de Jésus. Si la parole du prophète de Nazareth est à ce point efficace, elle serait donc vraie. L'exorcisme viendrait en quelque sorte illustrer et valider de manière spectaculaire l'autorité de Jésus. Oui, la puissance de son action confirmerait la vérité de sa parole. Et Jésus, alors, serait l'homme au super pouvoir. Mais en fait, la manière dont s'articulent l'enseignement et l'action de Jésus sont, je crois, beaucoup plus subtiles. Et dans cette perspective, je vous propose quatre remarques sur l'enseignement de Jésus. Première remarque. Surprise. Marc ne nous donne aucune indication sur le contenu de cet enseignement, ce qui peut paraître frustrant. On aurait attendu un discours ou une prédication, mais rien de tel. Comme pour nous suggérer que finalement, c'est le récit lui-même qui constitue un enseignement. L'enseignement de Jésus réside dans ce qui est en train de se dérouler entre trois personnages, la foule, l'homme prisonnier d'un esprit impur et Jésus. C'est l'action elle-même qui est un enseignement. Deuxième remarque, cet enseignement, il impressionne. Il est, nous dit l'Évangile, stupéfiant. Il suscite l'étonnement. Qu'est-ce que c'est ? Voilà la question de la foule. C'est d'ailleurs la même question que celle posée par les enfants d'Israël dans le désert, lorsqu'au petit matin, à l'heure de la rosée, ils ont découvert quelque chose de fin, de crissant, nous dit l'Écriture, tel du givre sur le sol, ils ont découvert la manne. Manne où ? littéralement, quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? L'expression même employée par la foule au spectacle de l'exorcisme. Oui, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que l'enseignement de Jésus ? Qu'en est-il de cette parole ? Qui est-il donc cet homme ? Il y a un cantique évangélique dont le refrain affirme que Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Peut-être, mais il est d'abord une question. Oui, frères et sœurs, la foi, elle se nourrit de questionnements avant toute chose. Il est trop simple, trop facile, trop illusoire aussi de se bercer de croyances ou d'opinions toutes faites. Troisième remarque, Jésus n'enseigne pas comme les scribes. Vous l'avez entendu, la scène se passe à la synagogue, le jour du sabbat. C'est le jour et le lieu de l'enseignement par excellence, où l'on procède à la lecture et aux commentaires de la loi de Moïse. Et c'est là que les scribes interviennent. Ce sont eux les enseignants, les professeurs. Ils connaissent le texte. Ils l'ont lu et relu. Ils se sont nourris de cette parole. Ils l'ont médité en s'appuyant sur les commentaires. Ils ont étudié les commentaires et les commentaires des commentaires. Ils se réfèrent à une tradition écrite, orale, la tradition des anciens, infiniment vénérable. Et ces scribes, ils appartiennent à une institution, à une corporation qui les a formés, qui les a intégrés, qui a reconnu leurs compétences et leur a donné le droit d'enseigner à leur tour. C'est le fait d'appartenir à cette institution et de se conformer à cette tradition qui les autorise à prendre la parole et qui accorde du poids à ce qu'ils affirment. Oui, ces scribes, ce sont les spécialistes, les interprètes officiels de la Torah. Ce sont des experts autorisés. Et alors, on s'aperçoit que l'autorité des scribes, c'est finalement le contre-modèle, l'antithèse de l'autorité de Jésus. Et j'en viens à ma quatrième remarque. L'Évangile nous dit que l'enseignement de Jésus fait autorité et qu'il est nouveau. Les deux, d'ailleurs, sont liés. Il est neuf parce qu'il a de l'autorité et il fait autorité parce qu'il est qualitativement neuf. Or, il se trouve que, à la différence des scribes, Jésus, lui, ne se réclame d'aucune autorité. Il ne se réfère à aucune institution. Il n'est pas prêtre, il n'est pas légiste. Il n'est pas docteur en Israël. Jésus est un sans grade. Il n'appartient à aucune corporation. Il n'invoque aucune tradition. Il ne revendique pas non plus une autorité personnelle, charismatique, comme le font tant de messies autoproclamés. Il n'a pas même la prétention de parler au nom de Dieu. Jésus, en fait, n'a pas d'autre autorité que celle de sa parole. C'est par elle que peut s'attester ce qui l'autorise. Et la parole de Jésus, en cet instant, c'est une parole qui surgit du tréfonds de son être, du plus intime de sa personne. Et cette parole de Jésus, elle s'impose alors en ce qu'elle parle à ceux qui l'entendent. Oui, l'autorité de Jésus est reconnue à la réception de son enseignement par un auditoire qui en est bouleversé. C'est du point de vue des auditeurs que la différence avec les scribes est faite. Le vrai de la parole se fait reconnaître parce qu'elle touche et qu'elle persuade ceux qui la reçoivent. Et cela ne tient pas à la fonction de celui qui parle. Cela ne dépend pas des critères communément admis, que ce soit un mandat, un diplôme, une délégation de pouvoir. Oui, ceux qui reçoivent cette parole, eh bien, ils se rendent compte qu'elle les éclaire, qu'elle les interroge, qu'elle a de l'effet sur eux et que peut-être leur vie va en être transformée. Et c'est à ce moment-là qu'ils reconnaissent l'autorité du maître de l'Évangile. À cet égard, la personnalité de l'homme en esprit impur, comme dit l'Évangile, la personnalité de cet homme prend un relief particulier. C'est lui qui interpelle Jésus dans une démarche dont il faut bien reconnaître qu'elle est extraordinairement agressive. Parce que cet homme, lui, il sait que Jésus est le Saint de Dieu. Il a 20 sur 20 à l'examen de catéchisme. Il est possesseur d'une certitude. Il est finalement comme les scribes. Il est à l'image de tous ces religieux riches de leur savoir et du pouvoir qu'ils confèrent. Mais en fait, ce que l'Évangile nous indique, c'est que ce discours de l'hyper-savoir, en fin de compte, il trahit l'aliénation de l'homme qui fait face à Jésus. Est-il un « je » Est-il un « nous » Sa parole, elle est en effet dans le « nous » de la confusion. Et la vérité, elle ne peut pas venir de ce mélange confusionnel qui fait face à Jésus et qui n'est pas un sujet capable d'une parole personnelle. Alors, avec une brutalité qui peut impressionner, Jésus impose silence à cet homme. « Tais-toi, ferme-la !» Oui, Jésus fait taire un savoir péremptoire qui prétend détenir la vérité ultime sur son identité. Mais non, la vérité sur la personne de Jésus ne peut pas advenir sous la forme d'un discours dont celui qui l'expose s'affirmerait le maître et le propriétaire. Mais dans un deuxième temps, cette parole de Jésus, qui est d'abord une parole qui intime silence, elle est aussi une parole libératrice. Parce que justement, elle délivre le possédé de cette prétention à savoir et qu'elle va lui permettre d'accéder enfin à une parole personnelle et authentique. Oui, ce que Jésus souhaite à cet homme, c'est qu'il puisse enfin prendre la parole afin de parler vrai. Et Jésus, en lui adressant la parole, lui fait du bien, tout simplement. L'homme est ainsi réunifié, libéré, apaisé. Il est un sujet autonome et réconcilié avec lui qui émerge de cette rencontre avec Jésus. Alors, quelle leçon tirer de cet évangile? Je crois qu'il nous invite à une réflexion sur l'autorité. Car Marc nous donne à voir une situation renversante, tout à fait caractéristique de l'Évangile d'ailleurs. Nous voyons des autorités religieuses qui enseignent sans autorité, alors que Jésus, qui ne s'appuie sur aucune autorité, enseigne, lui, avec autorité. Alors cet Évangile, il laisse entrevoir la possibilité d'une religion où la vérité ne s'impose pas à l'homme de l'extérieur. Car, voyez-vous, l'autorité des scribes, elle vise à maintenir ceux qui les écoutent dans la soumission et dans la dépendance. Et il y a beaucoup d'autorités qui, dans le cadre même du christianisme, fonctionnent de la sorte. On peut invoquer la tradition, par exemple. On peut invoquer un magistère de l'Église qui aurait capacité à donner une interprétation juste des contenus de la foi. On invoque aussi parfois l'autorité d'une écriture qui s'imposerait à la lettre, ou encore celle de l'esprit qui agirait de manière immédiate en dictant à ceux qui en sont illuminés ce qu'ils doivent dire et faire, sans l'ombre d'un doute. Eh bien, en fait, l'Évangile ici suggère l'existence d'une autorité indissociable d'un consentement intérieur à une parole qui touche le cœur, l'intelligence, la volonté de celui qui l'écoute et qui se l'approprie en toute liberté. Le mot « autorité », on le dit souvent, il vient du latin « auctoritas », dont la racine se rattache au même groupe que « augere », ce qui veut dire « augmenter ». On retrouve aussi dans cette racine le mot « auteur ». Tout cela pour dire que l'autorité, elle a une fonction de croissance. La véritable autorité, c'est celle qui grandit l'autre. C'est elle qui permet à l'autre de grandir. L'autorité, elle désigne le fait d'être auteur, c'est-à-dire fondateur, instigateur, conseiller, garant et aussi responsable d'une œuvre. Avoir autorité, être auteur, c'est finalement autoriser. Et autoriser, c'est donner permission. Prenons la littérature. Si un auteur est bon, s'il est vrai, son œuvre emporte la marque et elle augmente celui qui le lit. Il le rend plus humain, plus conscient de son humanité. Il le fait grandir. Et dans la vie, finalement, il y a beaucoup de donneurs de morale, donneurs de leçons, d'instructions religieuses ou de catéchisme. Mais des hommes qui parlent vrai, qui cherchent à être avant tout des auteurs, des éveilleurs, il n'y en a pas tant que ça. Jésus, lui, est l'auteur de l'Évangile, d'abord au sens où il est responsable de sa parole, où il se porte garant de ce qu'il dit, qu'il l'assume personnellement. Et puis ensuite, la mission de Jésus, à travers l'annonce de l'Évangile, c'est de faire grandir ceux qui l'écoutent. Oui, car les auditeurs de l'Évangile se rendent compte qu'il touche en eux quelque chose de très profond, qu'il les remue, qu'il leur fait vivre des déplacements intérieurs afin qu'ils puissent devenir eux-mêmes. Alors nous entrons, en nous mettant à l'écoute de l'Évangile, dans une dynamique de croissance, et notre vie en est transformée. Se mettre à l'écoute de la parole, ce n'est pas compiler un savoir sur Jésus et sur Dieu en accumulant des dogmes, des rituels, des lois, tels qu'ils sont débités par les corporations des scribes. Non, se mettre à l'écoute de la parole, c'est s'engager sur un chemin qui réclame du temps et des étapes. Ce chemin, il passe par des questionnements, des silences, peut-être même parfois par des cris d'indignation ou de désespoir, comme celui poussé par l'homme en esprit impur. Ce chemin, il passe aussi par des remises en cause et des approfondissements, des découvertes et des changements de perspective. Alors, sur ce chemin, le croyant devient capable, à son tour, de prendre la parole. Il est autorisé par Jésus à le faire. Et ce que le croyant dit alors, ce n'est pas un discours conforme au credo normé des scribes, c'est une parole personnelle, une parole libre, une parole pour la vie. Amen.